Bonjour à tous.
La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille.
Bonjour Alban, bienvenue sur le podcast de la grande famille. Je suis très heureuse de t'accueillir pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'accueil de l'au pair. Tu es une famille assez expérimentée, on peut dire, dans l'accueil des au pairs, parce que tu en as déjà un certain nombre.
Ça commence.
Pour en plus une famille nombreuse. Voilà, l'idée ici, c'est que on parle de la relation de l'au pair et puis un peu à bâton rompu, en fait, de comment on vit avec une au pair. C'est ça reste encore souvent très flou dans les idées et parfois très complexe aussi dans certaines situations, parce que la cohabitation, on le sait, n'est pas toujours aussi simple et fluide. Donc merci d'être avec nous.
Merci à toi de m'accueillir.
Donc Alban, tu habites à Biarritz sur la côte basque, tu es maman, tu es aussi entrepreneuse et professionnelle impliquée, donc il y a tous ces sujets d'équilibre de la vie de famille et de la vie pro. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta famille et de ton parcours?
Et oui, alors effectivement, comme tu l'as dit, j'habite Biarritz avec mon mari et mes 4 enfants, et on a la chance, grâce à toi, d'avoir découvert les joies d'accueillir une au pair. Et de faire cette expérience qui est extrêmement riche et positive pour nous, tant humainement que dans notre équilibre familial. Effectivement, on est tous les deux entrepreneurs, on travaille pas mal l'un et l'autre, avec quand même une certaine flexibilité dans nos emplois du temps. Mais Philippe, mon mari, travaille assez souvent, et dont le week-end, dont un peu tard le soir, etc. Et donc, à un moment donné, pour pas trop lui en vouloir de pas trop rentrer suffisamment tôt, ou en tout cas pas être toujours disponible, et ben j'ai choisi d'avoir un peu d'aide par quelqu'un d'autre que lui. Et ça a bien changé notre quotidien.
Et c'est pas une décision facile que d'oser se dire qu'on a besoin d'aide et de passer le pas, que d'y avoir recours, en fait.
Alors c'est vrai que j'ai eu pendant pas mal de temps à cette espèce de syndrome de Wonder Woman où je croyais pouvoir vraiment tout gérer toute seule, et j'avais un peu de mal à demander de l'aide. On l'a d'ailleurs souvent reproché dans la vie professionnelle. Grande optimiste que je suis, je croyais tout le temps que tout allait tenir dans mon emploi du temps et que j'allais pouvoir gérer super bien. Et effectivement, au bout d'un moment, tu te rends compte de tes failles, et puis et surtout t'aspires à plus de plus de zénitude, plus de juste que ce soit plus fluide. Et aussi, plus dès que c'est plus fluide, c'est plus équilibré pour les enfants, et de fait ils sont plus faciles à gérer quand ils ont dans leur quotidien quelqu'un qui est en fait toujours là, qui est une forme de repère, qui connaît la maison, qui connaît leur caractère, ça fait toujours un backup.
Aujourd'hui, quand vous avez démarré, les enfants, ils avaient quel âge?
Alors, je dirais que nos enfants avaient, à mon avis, Gaëtan avait autour d'un an, peut-être un peu moins. Et donc, Blanche avait 2 ans et demi, et Gabriel devait avoir 5 ans et demi, 6 ans. C'est des âges quand même intenses.
Ouais.
Ouais.
Surtout quand on travaille tous les deux.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, en fait, pas mal aussi accaparé. Je pense qu'un des... En fait, il y avait 2 sujets pour nous dans le fait de réfléchir à avoir une au pair pour nous accompagner. En réalité, bizarrement, le premier n'était pas tant celui de l'organisation, parce qu'en fait, ça se gérait pas si mal avec des super babysitters qu'on a eus qui venaient faire les sorties d'école et tout ça. Alors, il y avait le sujet de la sortie d'école, parce qu'en fait, quand tu as des rendez-vous qui durent un peu tard et tout, t'échapper en courant d'un rendez-vous, c'est toujours un peu compliqué. Tu as envie de prendre le temps de mener à bien tes rendez-vous professionnels, et je trouvais que le fait d'être timé pour être bien à l'heure à chaque fois aux sorties d'école, etc., pas toujours évident. Mais ça se gérait pas si mal avec des babysitters. Et en revanche, il y avait un autre sujet qui était important pour nous, c'est que c'était en fait l'ouverture aux autres, à d'autres cultures, et la langue. Et en fait, j'ai assez vite fait le calcul que tu apprends super bien une langue que quand tu l'entends et tu as la possibilité de la pratiquer au quotidien. Et que les petites leçons d'anglais ou d'espagnol que j'allais pouvoir faire donner à mes enfants, peut-être une fois par semaine, une heure, sans compter le trajet, l'organisation qu'il y a autour, etc., j'avais un peu peur que ce soit limité. Et je me suis dit, mais en fait, l'idéal, c'est évidemment qu'ils aient la chance d'entendre une autre langue au quotidien, dans la vie de tous les jours, et c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et d'autant qu'ils sont à des âges super éponges, quoi, où ils captent tout. Et donc, et la motivation de départ, elle était plutôt là. Et ensuite, on s'est rendu compte que, évidemment, ça remplissait cette mission-là. Ça remplissait une mission d'organisation qui était révolutionnaire pour nous. Et en plus de ça, ce qu'on n'attendait pas forcément, enfin, ce dont on avait moins conscience, c'est aussi l'impact émotionnel, enfin, l'intérêt que tu as d'avoir, en fait, quelqu'un d'autre dans ta vie, dans ton quotidien. Ça t'oblige à faire plus attention à ce que tu dis, à comment tu fais, à impliquer quelqu'un d'autre. T'as une petite notion un peu de management aussi qui peut être un peu lourde parfois, en tout cas moins naturelle que quand t'es dans ta vie avec tes enfants et ton mari. Mais qu'apporte tellement par ailleurs, t'as une affection qui se crée, avec quelqu'un d'autre qui est ni de ton pays, ni de ta langue, et ni de ta génération. Et donc tout ça, en fait, je trouve ça hyper positif et pour les enfants et pour nous. C'est ça dont j'avais pas conscience au départ. C'est que ça nous a porté aussi à nous, humainement, dans l'ouverture à l'autre, de comprendre d'autres problématiques, d'autres générations, d'autres sujets.
Est-ce que, quelque part, on pourrait dire que ça nous fait presque tous grandir de vivre ensemble avec ces différences?
Ah, ça c'est clair, ça c'est clair.
Et comment tu les considères, les au pair?
Alors moi, comme, je dirais...
C'est qui pour toi? C'est quoi le lien que tu construis avec elle? Elle représente qui pour toi, finalement?
Alors pour moi, et je l'ai toujours dit, ce que je leur dis à chacune, à chaque fois que je les accueille, c'est que à partir du moment où elles vivent avec nous et elles sont dans notre maison, dans notre quotidien, on les considère comme un membre à part entière de la famille. Donc en fait, pour nous, c'est quelqu'un de la famille élargie, comme je pourrais accueillir par exemple une petite nièce, c'est ce que j'ai déjà fait, la fille de ma cousine que j'ai accueillie plusieurs semaines, ou une amie de la famille de très proche, de très longue date, une cousine, voilà, c'est quelqu'un de à la fois proche et en même temps pas quelqu'un avec qui t'as passé non plus ton quotidien, mais c'est vraiment quelqu'un de la famille. Et donc à ce titre, on lui propose toujours de faire partie de nos moments familiaux, et tout en veillant à respecter sa liberté, ses moments aussi d'intimité, mais en tout cas, on lui ouvre la porte, à elle de la franchir ou pas.
J'aime bien l'expression, on lui ouvre la porte, ouais, à elle de la franchir ou pas, et finalement, cette porte, elle l'a franchie à son arrivée, mais c'est une situation et une métaphore qu'on peut retrouver au quotidien dans plein de circonstances aussi, dans la complicité et la nature de la relation qu'on construit tout au fil du temps.
Ouais, alors en plus c'est vrai que là, le fait d'avoir eu plusieurs filles au pair, ça illustre tellement bien ce sujet, parce que
si on reprend les nationalités, donc,
ouais, alors on a eu d'abord Christelle qui était mexicaine, on a eu Maline qui est allemande, puis Carla, mexicaine à nouveau, Kenny, d'abord Anne, canadienne, Kenny, mexicaine, et là on a Carolina qui est brésilienne. Donc ça fait pas mal de nationalités, mais pas mal de mexicaines aussi, parce que bon, il se trouvait qu'on avait un petit attachement à ce pays aussi, mon frère vivant au Mexique, je trouvais ça hyper sympa de partager ce côté culturel lié au Mexique. Et de fait, elles étaient toutes les trois de régions différentes, et donc avec des apports très très différents de traditions, et donc ça c'était hyper enrichissant aussi. Et c'est marrant parce que, en fait, qu'elles soient de la même nationalité, ça n'a pas forcément donné lieu au même... justement, même manière de s'intégrer dans la famille. Et comme je te disais, bah, tu ouvres la porte à chaque fois, des activités du week-end, des vacances, même de, pourquoi pas, de Noël ou ce... Voilà, les fêtes vraiment familiales. Et en fait, selon les cas, elles avaient envie ou pas de partager ces moments. Et ce, on respectait évidemment toujours leur envie. Mais par la force des choses, tu ne crées pas les mêmes souvenirs quand tu as passé des vacances ensemble, par exemple à la montagne, ou quand tu es partie. Nous, un des points marquants, en tout cas de deux filles au père qui ont partagé notre vie, c'est qu'on a voyagé en van avec elles. Donc, à l'époque, on n'avait pas quatre enfants, mais trois. Ça faisait quand même que tu étais six dans un van. Donc, il faut s'imaginer la taille du... voilà, de la structure. Et donc, ce qui est trop drôle, c'est que celles qui l'ont partagé ces moments-là avec nous, sur un week-end, hein, je ne te parle pas non plus de vacances, il ne faut pas exagérer, d'ailleurs, je ne l'aurais pas proposé, mais sur un week-end, eh ben, quand elles partent au bout d'un an de vie avec nous, tu leur demandes quel est leur meilleur souvenir de leur vie avec nous, c'est le week-end en van, qui est pas confortable, qui est bruyant, qui est... Mais elles ont partagé, je pense, des moments qui sont quand même assez forts, dans des super endroits, avec des vues incroyables, avec, je pense, cet inconfort créé, cette proximité crée aussi, ben, justement, une proximité plus amicale que quand tu partages que, entre guillemets, un travail, quelque part, une mission que tu as à accomplir avec les enfants.
C'est hyper intéressant. Et alors, je trouve ça fantastique. C'est pour ça que j'en ris, parce que il y a beaucoup de gens qui se disent, non, mais moi, je pourrais pas avoir quelqu'un qui vit chez moi pour le côté de la promiscuité et moi, du fait que j'ai besoin de pouvoir faire ce que je veux chez moi, ouais. De pouvoir m'habiller comme je veux. Ouais. Et alors vous allez pousser le bouchon encore plus loin, c'est que vous avez été jusqu'à dire, ok, ben on va passer un séjour en van, enfin ouais. Un week-end en van, tous ensemble. Donc là, ouais. En termes de promiscuité, on peut pas faire mieux.
C'est clair. Non, mais là, c'est vrai que c'est le max. C'est le max. Mais en même temps, tu vois, je pense que j'aurais pas pu dire il y a quelques années avant d'avoir des filles au père chez moi, que je pourrais faire ça avec quelqu'un qui... En fait, c'est des gens qui sont plus des inconnus, justement. C'est des gens qui sont tellement dans notre vie que, bah, que ça nous a semblé mais si naturel de faire ça avec elles. Et si elles ont répondu présentes, c'est aussi que ça leur plaisait et que, voilà, qu'elles étaient partantes pour le faire. Mais c'est vrai que tu as quand même quelqu'un dans ton quotidien, et surtout au début quand tu te connais pas encore très bien, tu as quand même quelqu'un chez toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, c'est la salle de bain des enfants chez nous, mais ça reste quelqu'un qui partage vraiment ton espace de vie, donc c'est sûr que tu as quelqu'un d'autre chez toi, ça il faut pas le nier.
Et comment les enfants, comment ton mari aussi a accepté ce choix ?
Les enfants, je pense qu'ils ne sont pas tant que ça posés la question. Alors, il faut dire que chez nous, il y a quand même souvent du monde. Il y a souvent des amis de passage. Ils ont eu beaucoup de babysitters. On sort quand même beaucoup. Donc, ils ont eu beaucoup de babysitters. Et en plus, des babysitters potentiellement de différentes nationalités et plein de fois différentes. Donc, ils sont très habitués depuis tout petit à avoir des gens différents qui s'occupent d'eux. Donc, en fait, ça s'est passé de manière tout à fait évidente. Quand Christelle est arrivée, qui était la première, ils l'ont accueillie comme n'importe quel babysitter, c'est-à-dire plutôt bien, mais quand même un peu potentiellement un peu méfiant, un peu joueur, un peu testeur. Mais elle a tellement vite fait partie de notre quotidien qu'en fait ils l'ont accueillie. Je pense comme nous on l'accueille en fait. Je pense qu'ils ont suivi notre. Je pense pas que pour eux la question se soit posée. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, quand on boucle un contrat au père, donc au bout d'un an, elle part. Il y a toujours une forme de tristesse de dire ben, au revoir à l'une. Mais ils me demandent toujours, ben, c'est qui la suivante ? Ils sont hyper curieux de rencontrer cette nouvelle personne qui va à nouveau partager leur vie pendant un an ou parfois un peu moins. Mais donc eux, ils l'ont accueilli hyper naturellement. Et pour répondre à la question sur Philippe, mon mari. Lui aussi, ça lui est... Alors, je pense que lui, il était entre guillemets plus réticent. C'est peut-être pas réticent le mot, mais en tout cas plus frileux, plus inquiet sur le fait d'accueillir quelqu'un dans notre vie quotidienne. Et en fait, quand ils voient la flexibilité que ça donne et aussi le fait que du coup, moi, j'absorbe beaucoup mieux des absences, des changements de programme, comme j'ai pas le sentiment que tout repose sur moi et que je suis bien épaulée, du coup, tout passe vraiment avec beaucoup plus de souplesse et donc moi je le vis mieux, donc nous on s'entend mieux et au final je pense que c'est que positif pour tout le monde.
C'est un cercle vertueux.
Ouais, totalement.
Et comment tu fais pour t'organiser ? Parce que c'est un cercle vertueux, mais ça nécessite de l'organisation, d'avoir... C'est quand même une personne en plus à qui il faut expliquer ton mode de fonctionnement, qu'elle puisse te suivre aussi dans la durée. Comment tu fais pour t'organiser ?
Alors, donc, ce qui est marrant, c'est que les gens qui me connaissent savent que je suis vraiment pas du tout la plus organisée de la Terre. Et c'est vraiment, donc quand on parle d'organisation et moi, ça fait clairement deux.
Mais ça, c'est ce que tu te dis, parce que la réalité, c'est que tu l'es quand même.
mais je le souhaite. Non, mais écoute, j'essaye de faire des progrès d'année en année. J'ai eu tendance à penser que le but d'avoir une fille au pair, ça pouvait aussi m'aider à justement contrer ce côté désorganisé et... du coup, j'aurais toujours du soutien dans les moments d'imprévus, etc. Et c'est le cas. Et ça, pour moi, c'est un grand soulagement dans ma vie de tous les jours. Après, ça nécessite quand même, en tout cas, de la présence et le fait d'être explicite dans tes demandes, de formuler tes attentes. Je dirais que c'est comme, toi qui es entrepreneur, tu connais ça par cœur, mais c'est comme quand tu recrutes quelqu'un. Dans la vie professionnelle, c'est que tu la recrutes pour t'aider à terme, mais tu sais bien qu'au début, les premières semaines, les premiers mois, il va falloir être plus présente parce qu'il va falloir bien expliquer ce que t'attends et pour mettre tout ça sur des rails. Et donc, oui, c'est vrai que le début nécessite un peu d'implication personnelle quand même, pour se mettre d'accord, pour qu'elle puisse observer comment je fais. Donc, c'est vrai que je suis plus présente, je pense, les premiers mois que les derniers. Et on en a beaucoup ri avec Carla et Maline notamment. Maline, elle a partagé le confinement avec nous, donc c'est aussi, elle a vraiment vécu totalement dans le jour, toute la journée avec nous. Et au bout de quelques mois, on en riait. Elle finissait mes phrases en fait. C'était extraordinaire. C'est vraiment quand t'arrives à ce niveau de complicité, c'est quand même vraiment magique de te dire, en fait, elle a deviné, elle me connaît tellement bien et elle connaît tellement de notre fonctionnement de famille que je te donne un exemple. On rentre un soir après l'école, il fait super beau, c'est trop sympa, et je me dis, tiens, je sais pas, peut-être un vendredi soir, il n'y a pas école demain. Tiens, Carla, j'ai pensé qu'on aurait pu faire un pique-nique à la plage. Et elle me répond tellement spontanément ce que j'allais lui dire que vraiment on explosait de rire et elle devinait toutes mes attentes et donc il est arrivé un moment où en fait t'as même plus besoin de penser à dire ce que tu attends, que déjà ça se fait tout seul. Ça c'est le
summum.
Mais j'ai conscience que ça peut pas être ça avec tout le monde et que on a été extrêmement gâtés et chanceux d'avoir aussi cette complicité là et que tu peux pas l'avoir avec toutes, mais on la savoure.
Je suis d'accord avec toi, et je pense en effet qu'il y a les personnalités étant uniques, on le retrouve pas avec tout le monde, mais néanmoins, combien d'au pair vous avez accueillis ?
Alors, Christelle, Maline, Carla, Anne, Kenny et Carolina. Ça fait six, maintenant.
Et donc, je pense qu'avec le temps, vous avez quand même une forme d'organisation, en tout cas une recette qui est liée à votre famille. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je trouve ça passionnant ce que tu nous partages, c'est, de comprendre, en fait, dans toute recette, il y a des ingrédients et puis il y a une alchimie qui se crée. Et cette alchimie, elle se crée ou elle se crée pas, elle se crée jamais de la même façon, c'est évident. Mais il y a des ingrédients de base, et dans ce que tu dis quand même, c'est de dire les choses précisément, de passer du temps au démarrage, parce que t'en passes beaucoup plus au début qu'après.
Ouais, c'est vrai.
Il y a une présence qui est là.
Ouais.
Il y a, je pense aussi, pour te connaître un peu, il y a une forme d'encouragement aussi.
Ouais, carrément.
Et de positivisme.
Ouais, c'est vrai.
De soutien de la personne qui la valorise.
Ouais.
et qui fait que finalement, quand elle grandit auprès de vous, parce que dans chaque expérience, elles ne sont plus les mêmes personnes quand elles repartent,
ouais,
quand elles
sont arrivées. Enfin, elles se développent. Mais oui, parmi les choses, tu vois, là, notamment ces derniers temps, c'est plus flagrant. De temps en temps, je vois que les enfants l'attestent ou que là, je suis au début d'une nouvelle relation au père, on va dire. Là, ça fait un mois à peu près que Carolina est là, donc on est à nouveau dans une phase de début. Et justement, il faut qu'elle aussi, elle trouve son mode de communication avec les enfants, qu'elle trouve les ressorts qui vont les faire bouger. Je te dis pas obéir, mais suivre le rythme. Et là, en ce moment, ils sont un peu dans une phase de test avec elle. Et justement, j'essaie de rebondir là-dessus pour être là, montrer nous les moteurs que je connais chez mes enfants, d'essayer de se dire bon, cette méthode-là, elle a pas marché, viens, on essaye une autre. Et en fait, on tâtonne ensemble. J'ai pas de recette miracle. D'ailleurs, avec mes enfants, j'ai jamais eu la recette miracle. Je la cherche encore et je la chercherai, je pense, toute ma vie. Mais en tout cas, et de temps en temps, en cherchant, tu tombes sur des petites pépites de solutions qui marchent parfois un temps, parfois qu'avec l'un ou avec l'autre. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye de trouver là.
Mais c'est hyper intéressant, ouais, parce que ça veut dire que t'es dans un apprentissage constant, et finalement, je pense que c'est la vie, hein,
ouais,
que d'être dans l'apprentissage constant.
C'est clair.
Et d'en avoir conscience, c'est aussi ça qui permet de mieux le partager, parce que tu peux l'expliquer. Parce que parfois, on peut faire des choses sans en avoir conscience, et c'est d'autant plus difficile de le partager que on ne sait pas le formaliser.
Justement, là, ça oblige à le formaliser aussi. Peut-être que je me serais jamais posé la question si j'avais pas eu de fille au père, peut-être j'aurais pas besoin de l'exprimer. Là, c'est vrai que j'ai besoin de l'exprimer. Et en reparlant d'organisation, il y a aussi un autre sujet, c'est que on n'est donc pas si organisé que ça. En tout cas, l'imprévu, c'est pas vraiment une désorganisation, mais l'imprévu fait beaucoup partie de notre mode de vie. Et donc, j'ai toujours dit à chacune des filles au père que j'ai recrutées, j'ai dit, voilà, il faut que tu sois OK pour vivre avec l'imprévu, parce que c'est vraiment notre mode de fonctionnement. Et si c'est un truc qui, toi, t'as besoin que ce soit hyper structuré et que les heures, elles soient hyper fixes et tout ça, tu vas être malheureuse avec nous. C'est juste, ça veut pas dire qu'on peut pas s'entendre par ailleurs, mais pour ça, c'est vraiment important que je pense qu'on soit raccord là-dessus. Et par exemple, Carla te dirait, c'est marrant, avec eux, c'est toujours l'aventure. Et elle l'a pris vraiment comme presque une qualité, en tout cas, un truc, je pense qu'elle a apprécié. Et pour quelqu'un qui a besoin vraiment d'une routine, je pense qu'il faut pas vivre avec nous. C'est impossible. Et du coup, pour contrebalancer ce point-là, j'essaye d'être aussi, moi aussi, très souple avec elle. De la même manière que j'attends de la souplesse de sa part, j'essaie toujours de dire, si tu as envie d'aller visiter Paris et que le train, il est moins cher le jeudi plutôt que le vendredi, tu pars un jeudi, tu me demandes, évidemment, la question, elle se pose même pas. Je pourrais gérer un jour toute seule, ou deux, ou trois, s'il faut. Enfin, en tout cas, j'essaie toujours d'avoir aussi cette flexibilité que je lui demande en contrepartie. Donc, on essaie d'être aussi dans le même état d'esprit pour nous que pour elle.
Mais c'est une vraie ouverture. Et c'est des notions intéressantes parce que finalement, comme il y a une personne supplémentaire à gérer, tout à l'heure tu parlais de management, mais finalement l'au pair c'est un peu à mi-chemin entre l'éducation, l'enfant et le management, parce que c'est un peu hybride cette relation.
Ouais, totalement.
Et le fait d'avoir besoin d'y mettre un cadre, ça peut, ça pourrait rigidifier l'organisation de vie.
Ouais.
Et toi, au final, tu dis, mais non, mais nous, l'imprévu fait partie de notre quotidien.
C'est ça, notre cadre, en fait. ça, c'est vrai. Mais il y a quand même un minimum de cadre, mais c'est vrai que nous, on a toujours tenu à ce que il y ait quand même, dans ce cadre-là défini, un peu de liberté de part et d'autre. Et que ce soit, en tout cas, accepté, bien vécu, parce que ça aussi, c'est un point super important. Et jusque-là, ça a bien fonctionné. Et je pense aussi que ça a créé, une forme de confiance aussi, de dire, moi, quand je te confie mes enfants, un des premiers trucs que je leur dis, et d'ailleurs que je dis aux enfants en parallèle, c'est quand je suis pas là, la personne de référence, c'est, là, dans ce cas, Carolina, Et donc, c'est elle, si elle te dit quelque chose, c'est elle qu'il faut écouter. Et même si je fais autrement, c'est elle la bosse. Donc,
hyper intéressant.
Petit transfert de, voilà, d'autorité.
Mais c'est hyper important, je pense, pour que l'au-pair prenne confiance en elle et asseoir son autorité, parce que c'est complexe pour une au-pair que de s'affirmer d'un point de vue de l'autorité vis-à-vis des enfants, en tout cas au début.
Ouais.
Et c'est hyper important qu'elle ait ce lien de confiance et cette transmission de la confiance devant les enfants, en fait. Parce que c'est ce qui lui donne sa légitimité.
En général, je fais un grand conseil à table, très formel, où effectivement, j'annonce un peu la couleur pour tout le monde, et devant elle, et devant les enfants. Et alors, ça marche bien, je ne sais pas te dire, mais quand même, ouais.
L'exemple montre que ça fonctionne quand même. Ouais. Mais c'est précieux et c'est intéressant d'avoir ces retours-là, parce qu'on sent l'expérience. Je pense que si
oui, j'ai peut-être pas fait ça pour la première, par exemple, c'est clair. Ouais.
Et dans les différentes nationalités, donc vous avez eu des Mexicaines, des Colombiennes, une Allemande, brésilienne. Ouais. Est-ce que quelle richesse, qu'est-ce que ça a apporté dans votre quotidien ou en tout cas dans la vis-à-vis des enfants? Est-ce que tu as vu des vraies différences en termes d'éducation ou finalement tu te dis ben non c'est pas tant la nationalité ou la culture, c'est plutôt la personnalité.
Comment je pense qu'il y a beaucoup de ça. Ce qui est très bien, c'est que tu fais la chasse aussi aux a priori, parce qu'en fait, par exemple, pour te donner un exemple concret, il s'est trouvé que, par exemple, Christelle et Carla étaient toutes les deux mexicaines et que j'avais donc associé mexicaine à super enjouée, extravertie, etc. Tandis que Kenny, qui était mexicaine aussi, était adorable, mais beaucoup beaucoup plus discrète, beaucoup plus en retrait, d'ailleurs beaucoup moins avec l'envie de partager des choses autres avec la famille, beaucoup moins de week-ends et de choses comme ça. Et donc ça, je me suis dit, bah là, tu tords le cou à une idée reçue, c'est que mexicaine n'égale pas forcément enjouée, qui parle fort, hyper, voilà, exubérante. Et donc en fait, je pense que c'est vraiment des sujets de personnalité et non de nationalité. Même si je pense que t'as potentiellement des traits de caractère qui ressortent, qui sont peut-être partagés par d'autres dans le même pays. Il y a quand même un peu des on le dit beaucoup que tu vois les Français ils sont comme ci, que les Allemands ils sont comme ça. Et tu vois typiquement Maline, je m'étais dit oulala la rigueur allemande au secours pour nous ça va être chaud. Et en fait bah Maline elle était juste parfaitement adaptée et flexible, juste tout à fait comme un poisson dans l'eau dans notre famille. Donc
et dans ce qu'elle donnait aux enfants, enfin dans les jeux ou dans les sujets d'échange avec eux, ça différait un peu le fait, tu penses qu'elle soit allemande plutôt que d'une culture sud-américaine.
Ouais, je pense que c'est possible. En tout cas, t'as toujours des occasions de fêtes dans l'année où elles vont te dire, bah moi dans mon pays on fait comme ça. Donc déjà, ça c'est un apport aussi culturel intéressant. Pour certaines, t'as eu des sujets aussi de langue où vraiment, je prends l'exemple de Carla, elle parlait espagnol aux enfants depuis son arrivée. Et à la fin, au bout d'un an, les enfants, ils lui répondaient en français, certes, mais ils comprenaient exactement tout ce qu'elle disait, sans aucun problème. Donc ça, c'est quand même, pour moi, un apport merveilleux. Je veux dire, ils ne parlaient pas peut-être deux mots d'espagnol avant qu'elle arrive.
Et elle leur parlait que
espagnol. Parfois, elle expliquait un petit mot en français, parce qu'elle se trouvait qu'elle parlait très bien français. Et donc ça, c'est quand même mon fils Gabriel qui avait 9 ans et est parti en camp de vacances en Espagne et a pu se débrouiller avec ses copains pour avoir des conversations vraisemblablement suffisantes pour passer une bonne semaine. Donc c'est génial. Et après, je pense qu'elles ont des approches tout à fait différentes les unes et les autres, mais qui dépendent à mon avis beaucoup un peu de leur pays, de la culture du pays, mais aussi de qu'elles ont vécu, dans quelle famille elles ont grandi, d'une famille nombreuse, pas nombreuse, tous les cas. Je pense que c'est beaucoup des questions de personnalité, en fait.
Ok, hyper intéressant.
Ouais.
Et dans l'âge qu'elles ont, c'était aussi très large, parce que Tu as eu Maline qui était très très jeune.
Oui, elle avait à peine 18 ans quand elle est arrivée. Mais souviens-toi, c'était une de mes craintes. Quand on l'a rencontrée, avant de la rencontrer pour la recruter, j'avais dit en fait, moi, quelqu'un qui sort juste de la maison, qui n'a rien connu, rien vécu, en fait, s'il faut que je lui apprenne tout, je ne vais pas m'en sortir. Et bah de fait, Maline était extrêmement dégourdie. Elle avait vécu, bon, c'est vrai, dans différents pays, etc. Elle avait une très grande autonomie et il n'y avait pas du tout de sujet d'âge. Et donc ça, c'est pareil. Je pense que quelqu'un qui n'a pas voyagé, qui n'est pas sorti de sa famille et qui a 26 ans et la Maline de 18 ans sont totalement égales. Je pense que ça dépend aussi de l'ouverture d'esprit, peut-être des tempéraments plus ou moins prêts à essayer, plus aventuriers que d'autres. Donc ça, c'est beaucoup des questions de personnalité aussi. Et je pense que les âges n'ont rien à voir là-dedans, contrairement à l'idée que je m'en étais faite.
C'est hyper intéressant. C'est vrai que je te rejoins, je pense que la maturité et l'âge, c'est pas forcément lié. Ouais. Mais quand tu l'expliques, j'en suis convaincue. Et on est dans nos fausses croyances et on se raccroche finalement à des idées préconçues. Et c'est audacieux d'oser aussi se remettre en question son mode de vie pour évoluer. Mais voilà, ça, tu le disais tout à l'heure, finalement, on apprend tous les jours. Toi, tu as eu des filles au père quand tu étais jeune, Alma?
Non, jamais.
D'accord. Jamais. Et comment t'es venue l'idée de te dire, mais finalement, pourquoi pas une fille au père? Alors, tout à l'heure, tu nous disais, il y avait l'aspect de la multiculturalité, de l'apport des langues pour tes enfants. Le fait aussi d'avoir besoin de soutien logistique parce que tu avais 3 enfants et maintenant tu as 4 enfants. Ouais. Comment tu fais pour gérer 4 enfants, ton entreprise, ton mari qui est entrepreneur? Comment tu fais?
Je fais comme nous toutes, je cours. Je cours, non, parfois c'est... je galère, parfois je suis découragée. Ouais, et souvent je suis enthousiaste et optimiste. Et donc ça, je pense que ça me porte beaucoup, mais c'est par chance mon tempérament. Que j'essaye de nourrir aussi parfois de temps en temps, c'est-à-dire que c'est pas non plus comme par magie, c'est aussi que j'ai décidé de prendre ce chemin optimiste et positif. Mais non, à part ça, je galère comme tout un chacun, mais j'ai beaucoup de chance d'être soutenue. Et alors, pour reprendre ta question sur comment ça m'est venu l'idée, franchement, je suis incapable de te dire. En plus, j'ai pas connu du tout, tu vois, dans mon enfance ou des gens qui auraient eu des filles au père. Donc je ne sais pas. En tout cas, en fait, pour t'avouer le truc, c'est que quand je suis arrivée à Biarritz il y a 12 ans, je me suis dit, et donc j'avais 25 ans, et je me suis dit, oulala, si dans 10 ans je suis encore là, mais c'est que je me suis encroûtée, mais totalement pas. Et donc, bon, résultat, je me suis encroûtée, on est d'accord. Mais non, en fait, j'ai découvert que cette région était exactement juste le sur-mesure de la vie qu'on aime et que je suis convaincue que tu peux passer une vie entière à chercher dans le monde ce qu'on a trouvé ici. Donc, franchement. Et en fait, j'ai toujours tellement été attirée par le fait de vivre à l'étranger, de vivre ailleurs, de faire d'autres expériences et tout ça, que je me suis dit, bon, en fait, je vais pas aller vivre à l'étranger parce que j'adore ma vie ici. Et que je ne vais pas donc délocaliser tout le monde. Et en plus, il se trouve que pour l'instant, il n'est pas question de déplacer nos activités à l'un et à l'autre, etc. Je ne dis pas, peut-être un jour ça arrivera, j'en sais rien. En tout cas, j'ai regretté beaucoup de ne pas avoir vécu à l'étranger. Et ça, pour moi, c'était un manque. Et je me suis dit, bon, je vais faire venir les étrangers ici. Et en fait, c'était, j'avoue, un petit côté un peu égoïste de me dire, en fait, c'est toi qui vas... Évidemment, j'ai envie de ça pour mes enfants, mais en fait, pour moi aussi, j'avais envie de m'ouvrir à l'autre, de comprendre comment les autres fonctionnent en venant de loin, avec ce que je disais, avec un autre âge. En fait, j'ai quand même naïvement cru que j'étais encore de la même génération que mes filles au père, mais en fait, pas du tout. Et il y a quand même parfois des petits chocs culturels aussi de génération, où je capte que je suis plus si jeune et qu'en tout cas je suis pas de leur génération et je fonctionne pas pareil et j'ai pas les mêmes modes de communication, j'ai pas les mêmes envies de sortie, j'ai pas la même façon de m'informer. Enfin, il y a juste 1000 trucs qui nous séparent et pour autant, on vit ensemble très agréablement dans une très bonne harmonie et c'est ça qui est trop chouette.
J'adore. Je trouve ça passionnant. J'adore parce que on est parfois en tant que femme tellement sujette à nos à nos limites en termes de d'oser faire les choses, de sentiment de culpabilité, et toi, tu arrives à balayer ça d'un revers de manche. Alors tu le dis, c'est du travail, c'est tu travailles ton positivisme, tu travailles cette volonté, voilà, de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et je te rejoins à 2000%. Je pense que c'est un état d'esprit qui se cultive, en fait, et que ça n'arrive pas tout seul et que voilà, ça tombe pas comme ça. Mais ça vient, et après ça guide tes choix, c'est-à-dire que de faire ta priorité numéro une, c'est aussi ça, je pense, qui équilibre les enfants, qui équilibre ta vie de couple, qui équilibre ton boulot avec ta vie personnelle. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis convaincue. Et tu l'expliques bien, c'est-à-dire que c'est ça, en fait. C'est ça, que de se dire, ben, voilà ce que je veux. Et puis, finalement, ben, j'ai un idéal et je l'accommode par rapport à ma situation aujourd'hui. Ouais. Et c'est ça, c'est comme ça que j'en suis heureuse.
Ouais, exactement. Ben, c'est marrant. C'est exactement ce que tu dis. C'est, pour moi, c'est une question d'ordre de priorité. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie que mes enfants puissent découvrir ou faire? Et donc, ben, qu'est-ce que je mets en place pour arriver là? Et je suis toujours persuadée que quand tu as des objectifs, en tout cas quand tu sais ce que tu veux, bah, tu sais beaucoup mieux le mettre en place, enfin en tout cas te donner les moyens d'y arriver que quand tu sais pas trop. Et moi, je pense que dans mon caractère, effectivement, il y a beaucoup de « je sais ce que je veux ». Et donc, bah, voilà, j'ai essayé de compléter un peu le puzzle pour arriver. Mais comme tu dis, on est les reines de la culpabilité et que ça ne veut pas dire que je suis jamais coupable et jamais en désaccord avec moi-même et tout ça. Non, pas du tout. J'ai les mêmes doutes que toutes, en tout cas, toutes mes copines et même parfois que mon mari et tout ça. Mais ben, en fait, tu chemines toujours par rapport à tes doutes. Et alors, il y a un autre truc sur ne pas se mettre de limites, enfin, en tout cas, tester. Moi, j'ai toujours eu la conviction que en fait tu peux pas t'empêcher de tester des choses, enfin tu peux avoir des peurs et tout ça, et c'est une chance, je pense, de pouvoir les dépasser, c'est super. Mais c'est vrai que je me suis dit, quand j'ai eu mon premier enfant Gabriel, je me suis dit, ok, je sais pas ce que c'est que la vie de maman, franchement, et aucune idée, je sais pas ce qui est facile, pas facile et tout ça. Ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire tout ce que j'ai envie, et puis quand je verrai que c'est galère, ben je referai pas, j'apprendrai de mes erreurs. Mais au moins, je vais pas m'empêcher de faire les choses, d'aller boire un apéro avec mon bébé en porte-bébé qui a 2 semaines, si j'ai envie. Eh ben, je saurais. Bon, en fait, c'est vrai qu'un bébé, il faut quand même le nourrir assez souvent quand il a 2 semaines. C'est peut-être un peu galère. En attendant, j'ai adoré mon apéro. Je me suis dit, c'est faisable. Après, tu joues avec l'inconfort que ça génère. Est-ce que l'inconfort, il était plus fort que le plaisir que tu as eu à aller boire ce verre? Bon, dans mon cas, le plaisir de boire le verre était beaucoup plus fort. Et bon, bah, j'ai eu mon bébé en porte-bébé, et voilà. Et donc, à chaque fois, je me suis dit, bah, dès que tu as envie de faire un truc, bah, tu le fais. Et puis, bah, ensuite, tu tires les conclusions et puis tu réajustes. Mais ouais, j'essaie de ne pas m'interdire quoi que ce soit.
C'est une entrepreneur dans l'âme. C'est l'état d'esprit des leaders, en tout cas.
Et ouais, c'est... Je ne suis pas si leader que ça, mais en tout cas...
Attends, pour réussir à mener ta petite troupe comme tu l'amènes, il faut quelques graines quand même. hyper intéressant. On a parlé des langues, on a parlé de la multiculturalité. Il y a quand même, à travers tout ça, il y a aussi une générosité assez, enfin, qui est innée, en fait. C'est-à-dire que, comme tu disais, t'ouvres ta porte et si elles veulent la franchir, elles peuvent la franchir. Et j'aime beaucoup cette image-là parce que c'est vrai que tu tends la main et après, la personne la saisit ou la saisit pas, quelque part. Mais il faut l'attendre. Comment on arrive à générer ça pour nos enfants? Donc, il y a l'exemple d'accueillir des enfants. Comment toi, tu, dans ton éducation, c'est quelque chose que tu as en toi, tu penses? C'est quelque chose que tu as vu, dans lequel tu as grandi? Parce que tout le monde n'a pas cette capacité à être généreux.
Alors, la générosité, j'en sais rien, mais en tout cas, bah, moi, c'est clair que j'ai grandi dans une famille où, si tu veux, l'image de la porte ouverte, c'était un fait. C'était juste une évidence. La maison de mes parents, c'était une porte ouverte à qui veut. Donc déjà, j'ai grandi dans une maison où, en fait, tu avais du passage tout le temps, le week-end, les vacances, le mercredi. Il y avait toujours du monde qui venait à la maison et c'était toujours un joyeux bazar, mais dans Joyeux Bazar, il y a Joyeux et il y a Bazar, hein, qu'on soit, voilà, et donc c'est pareil chez moi d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, du coup, j'ai grandi avec cette idée que, bah, voilà, quand tout t'apporte, bah, y a des gens qui viennent, et bon, ça peut faire un peu de remue-ménage, mais globalement, c'est assez joyeux. Et donc, c'est vrai que, comme tout le monde, je pense que t'as envie de reprendre des trucs que t'as reçus de tes parents, et puis à la fois, tu rejettes d'autres. Et ben, moi, j'ai fait mon petit dispatch, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce truc-là, je remercie mes parents de m'avoir fait grandir là-dedans, parce que j'adore ça et que j'ai envie de reproduire ça. Donc oui, mes enfants, ils savent que en fait, tu peux toujours inviter des copains et que tu peux toujours, voilà, y a toujours du monde qui passe chez nous, quoi. Toujours. Donc pour une fille au pair, du coup, ça nous a pris une chambre d'amis quand même. mais on peut quand même toujours accueillir du monde. On les met un peu moins confortables, mais ça passe. Et en tout cas, non, du coup, pour eux, je pense que c'est assez naturel d'avoir d'autres gens à la maison.
T'as accueilli déjà 6 personnes différentes en tant qu'au pair. Comment, est-ce que t'aurais des conseils? Comment tu fais pour choisir ton au pair?
Alors, le conseil numéro 1, c'est de s'appuyer sur des gens qui savent. Parce que, non, en fait, tu vois, c'est drôle que tu me poses cette question parce que quand on a, je crois que c'était pour Anne l'année dernière, donc faut dire, en plus, j'étais enceinte. Donc, j'allais accueillir une fille au pair qui allait arriver juste aller 2 semaines avant la naissance, ouais, 2 semaines, peut-être 1 mois avant la naissance de mon bébé. Donc, elle est arrivée, en gros, dans un espèce de gros tourbillon de famille, quoi. Et tu m'avais dit, bon, bah, comme t'es à l'aise, si tu veux, fais ton recrutement, toi-même. Donc, je savais que je pouvais choisir dans des profils qui sont en plus déjà présélectionnés, etc. Et en fait, bah, j'avais beaucoup de mal à définir mes critères, parce que comme je le disais typiquement, ben en fait, c'est pas une histoire de nationalité. En fait, tu peux pas dire je veux que des Mexicaines ou que des Allemandes ou que, en fait, j'en savais rien. Moi, ce que je voulais, c'était quelqu'un qui s'adapte dans notre famille, qui soit heureuse d'être là, qui soit aussi attiré par une ville comme Biarritz, parce que je pense pour des gens qui rêvent de la vie parisienne ou d'une vie citadine, d'une grande ville française, c'est pas du tout le même mode de vie. Donc c'est important aussi de, en tout cas, de filtrer aussi par rapport à leurs envies de découverte. Alors je dirais que souvent en tout cas dans les profils que j'ai vus et avant de revenir au recours à l'agence, c'était je regardais beaucoup ce qu'elles disaient les filles comme hobby. Et ben en général quand par exemple ce qu'elles aiment faire de leur temps libre, c'est d'aller au centre commercial, je sens qu'on n'est pas du tout raccord, que c'est pas du tout mon mode de vie et que donc peut-être c'est pas une fille qui va prendre plaisir à venir marcher avec nous en montagne ou peut-être pas, peut-être que je me trompe ou peut-être qu'on peut lui faire découvrir. Mais du coup, tu vois, comme quoi je prends pas toujours tous les risques non plus. Mmh. Et ben, c'est vrai que spontanément je me disais, ok, ça c'est trop loin de nos attentes naturelles, voilà. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Après, souvent ce qu'elles te disent d'elles, de leur personnalité, de leur vécu, de leurs attentes aussi. Et eh ben ça t'oriente un petit peu quand même sur est-ce qu'elles vont être en accord ou pas. Mais je dirais que c'est plus facile d'évacuer, de dire elle ça va pas matcher, mais de trouver vraiment la personne qui va matcher. C'est, je me dis toujours, c'est fou parce que ça se base sur, en vrai, un échange, on va dire, d'une heure sur un FaceTime. Et de là tu ressors soit t'as un feeling que t'as envie de creuser, soit tu sais que t'as pas envie de creuser. Mais donc déjà, ça se joue en fait en une heure, une année de ta vie. Mais et c'est pour elle et pour nous d'ailleurs. Ouais.
Oui, c'est vrai que c'est assez court. Mais comme finalement, quand tu passes un entretien d'embauche, tu vois 3 fois ton employeur. Ouais, et peut-être même qu'une fois parce que t'as vu après les autres services et tu te dis, ben, je vais y passer le 3/4 de mon temps. Donc c'est vrai que souvent dans la vie, les décisions sont assez brèves. Et il faut qu'elle soit rapide. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une question de feeling. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de continuer à parler avec la personne ou est-ce que finalement, j'ai pas envie d'en savoir plus? Et ça, c'est un élément assez fort quand même.
Après, j'ai toujours un tempérament où je me dis, ouais, mais pourquoi je lui donnerais pas sa chance, tu vois? Puis au bout d'un moment, bon, t'as quand même ton feeling qui te dit, non, écoute, tu sens mieux elle que elle et ça s'explique pas. Mais parfois, on peut se tromper, hein.
C'est intéressant ce que tu dis. Il y a on est parfois tiraillé entre se dire mais pourquoi pas, parce que finalement dans cette expérience il y a aussi offrir une opportunité. Et quand on est généreux, on peut être très généreux, donc on se dit pourquoi pas elle. Est-ce que la langue pour toi est un critère de recrutement? Est-ce que le fait que la personne parle une langue plutôt qu'une autre, ça en fait un critère de recrutement?
Bizarrement, tu vois, c'était notre critère de départ. Enfin, en tout cas, notre envie, ouais. Une de nos envies de départ, c'était ouais. que nos enfants puissent, en tout cas, s'ouvrir à une autre langue. Je te dis même pas la parler, mais au moins s'ouvrir à une autre langue. Et je m'étais dit, bon, autant quand même que ce soit plutôt l'espagnol et l'anglais que le chinois ou tu vois, des langues qui se parlent peu. Et bien que les Chinois sûrement parlent très bien anglais et que donc ils pourraient parler anglais. Et la preuve, Carolina, qui est aujourd'hui avec nous, étant brésilienne, elle parle portugais. Ouais. Et elle pourrait d'ailleurs très bien parler portugais aux enfants. Il se trouve que notre langue d'échange est l'anglais et que donc elle parle plutôt naturellement anglais aux enfants.
D'accord.
Mais tu vois, je lui ai dit, par exemple, cette semaine, je lui ai dit, en fait, si tu te sens plus à l'aise de parler portugais aux enfants, si là, on est dans une phase où elle, quand même, elle fait sa place et c'est pas toujours facile avec les enfants et voilà. Et du coup, je lui dis, si tu te sens plus confortable, moi, ça me pose aucun problème, sachant que le portugais, c'est proche de l'espagnol, et je pense qu'ils vont te comprendre. Mais à mon sens, ils sont plus dans une phase de test, rien à voir avec la langue, qu'elle parle anglais, portugais ou chinois, je pense que c'est le même sujet. Ils savent très bien que quand tu rentres de l'école, t'as ta douche à prendre, me dire, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment se moquer de moi. C'est qu'en fait, mes enfants, ils savent très bien et ils en jouent. Donc, voilà. Et en fait, oui, il y a quand même j'aimerais bien qu'ils apprennent plutôt des langues qu'ils pourront parler, qui pourront leur servir plus tard. Bien que toutes les langues peuvent servir. Mais c'est pas le critère numéro un de recrutement. Mais c'est vrai que, je sais pas quoi te répondre à cette question. Parce que, par exemple, Maline, qui a été vraiment une expérience formidable. Donc, Maline est allemande. Elle parle parfaitement anglais et parfaitement français. Et du coup, hyper naturellement, elle a parlé français aux enfants qui la comprenaient hyper bien. Et moi, j'avais dit à Maline le jour où je l'ai appelée pour la recruter, je lui ai dit, Maline, moi, je veux bien te faire confiance malgré le fait que tu sois jeune, etc. Mais je veux que tu parles anglais aux enfants. Je sais pas pourquoi, ça s'est pas fait et c'est pas devenu naturel. Et voilà. Et pour autant, j'ai eu une expérience formidable avec Maline. Ça n'a pas rempli le sujet de la langue, mais ça a rempli tout un tas d'autres sujets. Et donc, soit.
C'est hyper juste... intéressant ce que tu dis parce que on est souvent motivé par le prisme de l'apprentissage des langues dans le fait d'accueillir un au pair.
Ouais.
Et finalement, ton expérience, elle témoigne que il y a tellement d'autres choses en fait qui ont été au rendez-vous exact. Et qui étaient positives et ouais. qui se sont bien placées que la langue s'en est devenue secondaire, voire même accessoire.
Ouais, totalement.
Et ça, c'est hyper intéressant. Mmh. Et en plus, moi, ce que je trouve incroyable, c'est tes enfants, ils sont petits. Et donc moi je sais que les enfants petits, il y a quand même beaucoup de familles qui disent non mais en dessous de 22 ans on peut pas leur confier des petits. Ah, et oui. Maline elle avait 18 ans.
Ouais. Oui, après moi je marche toujours sur la confiance, donc moi je me dis si à partir du moment où je t'ai recrutée il va falloir que de toute façon juste en fait c'est pour moi que je le fais. Il va falloir que tu puisses gérer mes enfants parce que en fait la contrepartie de ça c'est qu'il faut que moi j'ai aussi plus de temps libre et que je puisse compter sur toi. Donc si dès le départ tu lui montres pas ta confiance et que tu montres pas aux enfants que tu lui fais confiance, il y a un truc qui ça va pas, ça peut sûrement se réajuster, mais en tout cas je pense que ça part de là, de cette confiance là. Donc et d'ailleurs parfois tu sais le début de la relation elle est pas toujours évidente, surtout quand le parent est là. Et donc, il y a eu même des moments où j'ai essayé de dire, en fait, ok, je pars, je te laisse avec les enfants, alors que je suis tout à fait disponible et que je pourrais au contraire rester. Et je m'étais dit, ok, je vais marcher une demi-heure, le temps qu'ils prennent leur bain, ou voilà, pour justement la laisser seule avec les enfants et montrer, ok, t'es en charge, et il n'y a que elle, c'est elle la référente. Et du coup, déjà, moi, ils viennent pas m'embêter si je suis en train de travailler ou... Parce que parfois, je suis là, mais du coup, le but, c'est que je fasse autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus efficace si je suis pas là, quand si j'ai vraiment besoin de faire autre chose. Et aussi, elle, ça lui donne un peu son espace de prendre sa place, en fait.
C'est C'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça ne peut fonctionner que si on fait confiance, et c'est vraiment la base de la relation. Mmh. Et il faut être capable de faire confiance et de lui laisser son espace. Et c'est vrai que pour une maman, c'est pas facile que de se dire, ben finalement, mes enfants, je vais les laisser aller vers quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour entendre beaucoup de mamans, il y a des mamans qui se diraient, mais non, mais je veux pas perdre ma place de maman. Mais en fait, c'est pas perdre ta place de maman, c'est que tu gagnes en qualité avec eux, finalement.
Ah, moi, ça, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que, du coup, tous les moments que je partage avec eux, enfin non, pas tous, faut pas exagérer parce que c'est pas non plus, ça roule pas non plus tout le temps tout seul, mais globalement c'est vrai que du coup j'arrive, je suis pas tout le temps en train de leur dire allez va au bain, enlève tes chaussures, prépare ton cartable, etc. Okay, je fais les devoirs, par contre je gère les devoirs, mais du coup les moments que je vais avoir avec eux, à part les devoirs le soir dans la vie en temps d'école, ça va être tu vois, par exemple, ce que j'ai gagné qui est inestimable pour moi, c'est comme je sais qu'il y a quelqu'un en charge à la maison, de temps en temps, je te dis pas que je le fais tous les jours, loin de là, mais j'essaie de le faire peut-être une fois par semaine, j'emmène mes enfants se promener 10 minutes. C'est bête, 10 minutes, comme tu es toujours dans le speed le soir, tu te dis 10 minutes, franchement, ça va nous mettre dedans. Et en fait, chacun son tour, 10 minutes, alors pas tous le même soir, etc., mais avant de passer à table, mettons, t'en as un qui est prêt, ok. On va faire un tour du quartier. Franchement, je mets un timer. Hein. Au bout de 5 minutes, je fais demi-tour. Mais ça fait 10 minutes seul à seul avec ton enfant où tu vas avoir fait une petite balade. Tu regardes les feuilles tomber, changer de couleur, je sais pas quoi, le petit oiseau qui passe, le chat du voisin et tu papotes. Il te raconte sa journée, dont tous ces trucs qui déroulent plus facilement, je sais pas pourquoi, en marchant que quand tu as dit comment était ta journée et qu'il a rien à te raconter. Et ben là, je sais pas, ça déroule et il te raconte même parfois dans des détails. T'en avais pas demandé autant, mais voilà, t'as un super moment avec ton enfant et franchement, ça t'a pris 10 minutes dans ta soirée, c'est rien du tout et ça a pas mis à mal le rythme de, et l'heure de coucher et tout ça. Et ben, tu vois, ça, c'est hyper précieux. Et pourquoi je peux le faire? C'est parce que les autres, je sais qu'ils sont en sécurité avec quelqu'un à la maison et que ça roule. Et du coup, ça, et mes enfants, ils adorent. Ils disent, c'est quand mon petit tour?
C'est génial.
Et ça, ouais, parfois, on le fait, tu vois, à vélo, on a la chance d'habiter proche de la plage. Ben, c'est bête, mais t'as fait un tour, t'es allé voir la mer, t'es revenu, ça t'a pris 10 minutes, allez, peut-être un quart d'heure. Top chrono. Et t'as respiré l'air frais, t'as papoté avec ton enfant, t'as rigolé, t'as regardé un bout de coucher de soleil, machin. Je sais pas par quel tour de magie, bizarrement, le reste de la soirée se passe quand même beaucoup mieux. Tout est beaucoup plus fluide parce que l'enfant, il a passé un
super moment avec toi.
Même parfois, je le fais en pyjama, quoi. Donc,
il a passé un super moment et un moment privilégié.
Ouais. Et plutôt que d'être, aussi ce que je fais, en train de remuer une casserole et faire une dictée et dire à l'autre, lis ça et truc. Bon, en fait, on le sait bien, quand on se démultiplie, en fait, parfois, tu perds aussi en qualité pour chacun. Donc, moi, j'aime bien essayer de réserver un petit moment à chacun, même si parfois, je fais aussi des trucs avec, évidemment, tout le monde. Mais tu vois, ça, c'est des trucs gagnés et tellement précieux. Et je te jure que c'est 10 minutes par soir, peut-être une fois par semaine, ou une fois chacun, peut-être deux fois. Et... c'est juste magique. Et du coup, j'ai pas du tout l'impression de perdre ma place de maman. Bien au contraire, j'ai l'impression de reprendre une vraie place trop chouette où tu passes un vrai bon moment à lire une histoire, à faire une balade, même faire les devoirs, c'est pas un bon moment, mais du coup, t'es focus et t'es pas en train de t'assurer que l'autre soit sorti du bain et que, voilà. Et, en fait, t'es plus disponible pour eux. Enfin, quand t'en as plusieurs, ce point-là, il est évident. C'est que t'as quelqu'un d'autre qui gère les autres pendant que t'es avec un.
C'est passionnant, une vraie source d'inspiration. Non, mais c'est un exemple tellement pratique et y a plein de mamans, mais moi y compris, où j'aurais me dirais mais c'est un grain de sable et je vais me mettre dedans en fait.
Ouais.
Et
non, mais je me dis aussi souvent ça.
quand tu l'expliques, oui, j'en suis persuadée que les bénéfices sont décuplés. Ouais. C'est le petit effort de plus qui fait que ça donne des bénéfices.
Et comme tu dis, c'est un petit effort de plus, en effet. C'est-à-dire, il nécessite quand même le petit coup d'élan, le petit coup de boost va bien pour te sortir. En fait, c'est t'éjecter du quotidien. Mais ça, tu l'observeras avec les enfants ou ailleurs. C'est comme quand tu butes sur un truc au boulot et que, en fait, plutôt que de t'acharner, tu vas faire un tour. Enfin, ça, moi, je sais pas. Pour moi, c'est un tour de magie, ce truc. Et je dis pas que j'arrive à le faire tout le temps. Malheureusement, pas assez.
La marche méditative.
Mais, c'est, quand tu le fais, tu te dis pourquoi je le fais pas plus souvent. C'est d'un tel bénéfice. C'est s'éjecter, quoi, du tourbillon, parfois infernal, quoi. Ouais. Bénéfice, pardon, que j'ai pas mentionné et qui est quand même extrêmement précieux aussi dans notre vie de famille, c'est en fait le bénéfice pour la vie de couple. Alors, je l'ai un peu mentionné de dire j'en veux plus à mon mari de pas être là pour m'aider, etc. Mais c'est aussi surtout, ça nous a permis de s'aménager des moments à deux où t'as pas d'orga à prévoir parce que ta fille au père, elle est là. Tu dis tous les mercredis soirs, on sort en amoureux, on va faire un tennis, un ciné, un truc. Mais c'est notre soir à nous. Ben non, mais juste ça. Moi, je sais pas qui arrive à le faire, mais autour de moi, en tout cas, pas tant que ça. Non. D'arriver à s'aménager ce moment à deux. Et franchement, déjà, tu t'engueules moins parce que t'as déjà tout un tas de sujets qui sont réglés par le fait que ton organisation, elle roule mieux. Et en plus, t'as des moments à deux où tu peux parler d'autre chose que d'organisation, justement. Ouais. Bah, ça.
C'est rare.
C'est rare. Et ouais. Franchement, c'est un luxe c'est que là, je savoure aussi énormément.
Et c'est ce qui fait que ton couple dure.
Ben, j'espère
pense.
Le plus possible,
non,
en
mais
tout
je
cas,
pense.
Mais
c'est
ouais,
ce qui,
c'est clair
c'est ce
que...
Ça y contribue, en tout cas, parce que souvent, ce qui est difficile dans un couple, c'est de réussir à trouver de l'oxygène pour le couple,
ben,
en
c'est
fait.
Ça, c'est
parce
ça.
Parce que aimer, c'est un verbe d'action et qu'on met souvent
parfois,
les enfants en premier
plan
et on pense pas à notre couple.
Ouais. Et c'est pas pour autant qu'ils sont plus en premier plan. C'est ça, là aussi, tout l'espèce de tour de passe-passe de la fille au père, c'est que... effectivement, t'es un peu moins, peut-être moins présent sur le temps passé, mais t'es plus présent en qualité. Et pareil avec ton conjoint, c'est que c'est vraiment des moments où t'as plaisir à te retrouver, où tu te souviens pourquoi tu t'es aimé, tu t'es fait rire, tu t'es, enfin, ça fait pas non plus 10 000 ans qu'on est mariés, mais tu vois, 12 ans. Et ouais, je trouve que ça maintient des bons moments ensemble. On a vraiment plaisir à se retrouver.
Tu nous as parlé rapidement de tous les bénéfices que ça avait. Toi, personnellement, au-delà de ton organisation, parce moi, j'ai bien compris, et je pense que tout le monde a bien compris que ce mode de garde, cette organisation, le fait d'avoir quelqu'un, c'est vraiment ce qui t'avait permis de t'équilibrer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de ton métier, de ta profession ?
Alors moi, j'ai fait des études de journalisme. Et ensuite, je suis venue ici, donc c'est pas du tout le journalisme qui m'a amenée ici, mais c'est mon mari. Et arrivée ici, donc au Pays Basque, j'ai pas immédiatement trouvé de quoi exercer mon métier. Et en plus, j'avais cette envie de progresser. Je me suis dit, si je suis freelance, je vais rester trop sur ce que je sais faire. J'ai besoin d'être challengée par une équipe. Bon, résultat, j'ai plus du tout fait ce métier puisque je suis allée travailler avec mon mari dans son agence immobilière. J'ai monté un service de location de vacances que j'ai dirigé pendant les 6 ans qu'on suivit, que j'ai essayé de développer tant bien que mal, etc. Et puis, bah, les enfants se multipliant. bon, ça m'a quand même pris... En fait, c'est un métier qui demande énormément de disponibilité. Et du coup, j'avais plus la satisfaction d'être vraiment 100% dans mon boulot et de pouvoir faire le service aussi bien que j'aurais voulu. Et puis, bon, c'est un métier quand même assez difficile, ingrat. Et j'avais plus envie de travailler avec mon mari. On se disputait pas, mais j'avais envie de mon espace à moi. Et donc, à la naissance de ma troisième fille, Gaëtane, qui va avoir 5 ans là, je me suis dit, bon, en fait, qu'est-ce que tu peux réinventer dans ta vie professionnelle pour en fait t'échapper de ce boulot-là qui là te pèse, et trouver un truc dans lequel tu peux t'exprimer, qui soit compatible avec ta vie de famille, qui ait un peu de flexibilité pour ta vie de famille, justement, les enfants malades. T'as beau avoir une fille au père, faut quand même, c'est moi qui les emmène chez le pédiatre, et donc l'air de rien, t'as 4 enfants, bah ça fait 4 fois plus de rendez-vous de pédiatre, hein, ça c'est mathématique. Et donc voilà, je voulais une certaine flexibilité, plus bosser le week-end parce que mon mari bosse beaucoup le week-end. Enfin, donc t'avais tout un tas de critères. Et en fait, je suis venue à la décoration d'intérieur. Ça me titillait depuis un petit moment, mais j'ai mis un peu de temps à me l'avouer. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir me former dans une agence locale qui m'a ouvert ses portes, elle aussi, et donné ma chance. Et donc, je travaille toujours en freelance pour eux et à la fois à mon compte.
Ok,
donc,
super.
Voilà, sur des projets de rénovation, de décoration.
Ok. Tu peux exprimer toute ta créativité.
Eh ben, ouais, c'est ça qui me plaît.
Ok. Voilà. Et on va conclure. Si tu avais un conseil à nous donner, Alban, pour avoir une vie aussi épanouie que la tienne, lequel ce serait?
Eh bien, je pense savoir définir ses objectifs et ses priorités, et je trouve que de là découle tout. Et en plus, c'est pas la contrainte qui détermine son mode de vie, c'est l'envie qui va diriger tout ce que tu conçois autour. Et bah, tout de suite, d'être motivé par une envie, c'est tellement plus porteur, plus motivant, plus... Voilà, t'as le smile quand tu sais que tu fais tout ça pour des trucs qui te plaisent ou pour... Mais je te dis ça, c'est dans le boulot comme dans la vie. Tu sais que, je sais pas, nous, par exemple, ce qu'on adore, c'est faire des randonnées. Bah, tu sais que oui, c'est sûr que le petit move qu'il va falloir mettre en place pour aller à la randonnée, préparer le pique-nique, mettre tous les gosses dans la voiture et tout ça, faut se mettre un petit coup de boost. Mais comme tu sais ta motivation, ça déroule parfois difficilement. Mais une fois que tu es là-haut, tu sais pourquoi tu l'as fait. Et donc voilà, donc c'est se laisser plutôt diriger par des choses positives qui te motivent plutôt que par les contraintes, qui sont jamais des moteurs positifs.
Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alban.
Avec plaisir.